même s'ils sont peut-être un peu discrets, sont présents partout. Acte 18, verset 10, le Seigneur dit à Paul, j'ai un grand peuple dans cette ville. Tu t'en rends pas compte, tu ne le sais pas, mais j'ai un grand peuple dans cette ville, voyez. C'est un peuple un petit peu souterrain, mais enfin il est bien présent, il est présent partout. Et ça veut dire que, quelque part, nous pouvons un peu peser sur les nations dans lesquelles nous vivons. Je le rapprocherai volontiers de l'idée du sel de la terre. Vous voyez, le sel de la terre aussi, le sel il est dissous dans la soupe, on ne le voit pas, ça ne fait pas de bruit, ça n'a pas d'aspect, mais ça change le goût de la soupe. Et les chrétiens, eh bien, ils sont aussi un peuple dans le peuple. Quelque part, qui, comme ils sont un petit peu dans tous les voisinages, dans toutes les entreprises, dans tous les lieux où les gens se rencontrent, eh bien, ça apporte un petit plus. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée du peuple de Dieu. Et en plus, non seulement on est des citoyens, mais on a un titre supplémentaire, on est aussi des ambassadeurs. Pour ce pays, pour ce roi qui est d'ailleurs. Donc on a un rôle d'ambassadeur, de représenter le Seigneur Jésus. Et donc, avec ce message à transmettre, alors on pourrait beaucoup développer l'idée de l'ambassadeur. L'ambassadeur, il est d'ailleurs, il a un billet pour rentrer dans son pays si tout va mal. Et l'Église prendra un charter un jour pour être rapatrié parce que tout va commencer à aller mal sur la terre. Mais juste avant, on sait qu'il y a un charter qui nous attend, qui a été commandé depuis longtemps. On a tous un billet pour l'enlèvement de l'Église. On va être rapatrié à la maison et là, on sera en sécurité pendant que la terre connaîtra des moments difficiles. Bon, il y a aussi quelquefois, on a un billet, on doit rentrer parce que le chef d'État nous rappelle. C'est aussi quelque chose qui peut nous arriver à tous d'un jour ou l'autre. Mais voilà, c'est ça. L'ambassadeur, il est dans un autre pays, il est provisoirement là, et puis il est là pour donner une bonne image de son pays. Alors c'est l'idée du témoignage. Rendre témoignage pour le Seigneur, donner une bonne image de notre roi. On peut passer à la quatrième image qui est le temple. On va lire dans Éphésiens 2, verset 21. Alors, temple ou maison, hein, les deux choses sont un petit peu proches. C'est une maison particulière qui est un temple. Éphésiens 2, 20, enfin on peut remonter au verset 19, « Ainsi donc vous n'êtes plus étrangers ni forains, vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la maîtresse pierre du coin, en qui l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. » Vous voyez que temple et maison, il y a d'autres versets aussi où les deux sont cités côte à côte. Quelquefois, on a l'impression que temple désigne plutôt un bâtiment fait de pierre et que maison désigne plutôt la maisonnée, les gens de la maison. Vous voyez, on le voit ici. Hein. Vous êtes des concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. On a l'impression que le terme maison évoque plutôt les habitants de la maison ou du temple, si vous voulez. En l'occurrence. Mais bon, après, quelquefois, c'est ambigu. Dans 1 Pierre 2, 5, on est édifié comme des pierres vivantes, on est édifié une maison spirituelle. Alors là, on est obligé de penser que c'est une maison faite de pierres. Les deux choses sont imbriquées. On est à la fois le bâtiment et les gens qui habitent le bâtiment. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le propriétaire, en tout cas, de ce bâtiment, l'hôte de ce bâtiment, en tout cas, c'est le Saint-Esprit. On est une habitation de Dieu par l'Esprit. Alors, il faut souligner plusieurs choses par rapport au temple ou la maison. C'est qu'elle est déjà, ce qui est important de préciser, c'est son fondement. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur a dit à Pierre, sur ce roc, et quand il utilise le mot roc, c'est un mot spécial, c'est pas le même mot qu'une pierre, c'est-à-dire sur ce rocher, sur ce fondement qui est lui-même, je bâtirai mon Église et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Voilà, l'Église, elle est fondée sur Christ. La base de l'Église, c'est Christ. C'est aussi un peu la déclaration de Pierre juste avant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça, le fondement de l'Église. C'est tous ceux qui professent cela, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, deviennent partie constituante de cette maison. Donc la base, c'est ça, la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui est la base de l'Église. C'est Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui fonde l'Église. Mais dans notre passage, il y a aussi le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Les apôtres nous ont laissé un enseignement, les épîtres, mais aussi les évangiles. Il y a aussi les prophètes, ceux qui enseignent encore aujourd'hui. Donc l'Église se base aussi sur l'enseignement. C'est important d'être d'accord sur la foi en Jésus-Christ, mais ensuite il y a un enseignement qui suit et qui constitue une Église qui est correctement construite, on peut dire. Il n'est pas construite avec du foin et du chaume, comme on voit dans 1 Corinthiens 3, mais qui est faite avec des choses précieuses. Et alors, pour cela, le verset 21, je trouve assez remarquable, « En qui l'édifice bien ajusté ensemble. » Vous voyez, c'est dit par rapport à la pierre de coin. Alors, vous voyez, on a posé une pierre de coin, une grosse pierre. Hein, c'est une grosse pierre, en général, la pierre de coin, surtout pour le temple. Une énorme pierre, on l'a posée. Et en même temps, elle va donner l'alignement du bâtiment. Non seulement elle va faire la solidité du bâtiment, mais elle va en donner l'alignement. On va être bien ajusté sur cette pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous a donné en même temps une ligne de conduite à respecter. Voilà. C'est lui notre modèle. Il sert de base, de repère absolu pour la construction de l'Église. Voilà. Et Christ nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces. Je crois qu'il y a cette idée d'un bien ajusté. Voilà. Bien ajusté sur le Christ. Notre modèle. Et là, on construit quelque chose de beau. De bien droit, qui est beau, qui est majestueux. Et puis également, on pourrait développer un petit peu, quel est le ciment qui fait la solidité de ce bâtiment, parce qu'il y a un ciment quand même entre les pierres qui va les coller. Et bien là, je pense à ce verset de Colossiens 3 qui dit « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, ou le lien parfait. » Voilà, qu'est-ce qui va faire la solidité de ce bâtiment? C'est l'amour. Alors c'est beau, hein, ce bâtiment, basé sur Christ, aligné sur Christ, fait de pierres vivantes qui sont soudées par l'amour. Voilà. Et là, le temple, il croit, il grandit. Ensuite, on passe à la famille. Le mot famille de Dieu, à ma connaissance, n'est pas dans le Nouveau Testament. Par contre, bien sûr, il est longuement développé l'idée du Père avec ses enfants et des frères et sœurs en Christ. Alors, on va lire Jean chapitre 1er, verset 12. Il vint chez soi, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus, eh bien, nous devenons des enfants de Dieu. Alors, je vais surtout aborder la relation entre le Père et ses enfants, puis il faudra dire un petit mot aussi des relations des frères et sœurs entre eux. Il me semble qu'il y a trois grands caractères de notre Père céleste. Je commence par peut-être le moins agréable, c'est que le Père, c'est celui qui discipline. C'est celui qui a des droits sur ses enfants, qui est conscient de sa mission d'éducation sur ses enfants. Et c'est dans ce sens-là que Dieu nous discipline. Il nous discipline pour notre profit, comme dit Hébreux 12. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, mais évidemment, quand on est dans l'épreuve, quelquefois l'épreuve est un peu amère. Mais voilà, ça nous est dit que Dieu nous discipline pour notre profit. Ça fait partie de sa manière de nous former. Les épreuves, il ne faut pas forcément les voir comme une punition, mais bien plus souvent comme, on peut dire, une école. Une école que Dieu emploie pour nous former, et puis pour qu'on grandisse, et puis qu'on lui ressemble. Voilà, alors on a par exemple l'épître de Jacques qui nous dit « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et puis la patience, que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez accomplis, ne manquant de rien. » Voilà, c'est un travail de perfectionnement que Dieu poursuit au travers des épreuves. Quelquefois, on trouve que c'est un peu dur, et que Dieu n'est pas toujours tendre, parce qu'on dit tendre père, hein. C'est pas dans la Bible, hein, tendre père, mais bon, on est d'accord que Dieu est capable d'une infinie tendresse, mais je pense qu'il est aussi capable d'une grande sévérité, une très grande sévérité. Ensuite, bien sûr, il y a l'idée du Père qui nous aime, et le Seigneur Jésus l'a dit à ses disciples, le Père lui-même vous aime. Voilà, ça c'est quelque chose que rien ne peut remettre en cause, même lorsqu'on est discipliné, ou éventuellement même lorsqu'on serait châtié par le Père, ça n'enlève rien au fait qu'il nous aime. Ça, c'est quelque chose d'invariable. Dieu nous aime pour toujours. En Christ, son amour n'a pas de limite envers nous. Et tout ce qu'il fera, même si c'est dur à traverser, on peut être certain que c'est inspiré par son amour. Ça, c'est une certitude. Et puis aussi, le Père est un Père exemplaire, parce qu'on est appelé à l'imiter. Plusieurs fois dans les Épîtres, mais surtout aussi dans l'Évangile selon Matthieu, il est bien dit, alors aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du tort, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire des dignes fils de votre Père, des gens qui ressemblent à leur Père. Votre Père, il est comme ça, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il ne fait pas de différence entre les bons et les méchants, il leur donne un certain nombre de choses pour tous. Eh bien nous aussi, il faut savoir aimer comme ça tout le monde. Afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est un Père qui est pour nous un modèle à suivre, un Père exemplaire, à qui on veut ressembler. Aussi dans Colossiens, comme des élus de Dieu, bien-aimés de Dieu, et alors pardonnez, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et petite remarque au passage, si vous prenez ces trois caractères du Père, qui sont clairement ceux de Dieu, vous avez là le Père idéal, non ? Un Père qui discipline, qui aime et qui est exemplaire, c'est presque complet. Bon, après dans la pratique, hein, c'est peut-être pas évident de tout réunir, mais il me semble que c'est aussi trois bons repères pour tous les pères de famille qui sont ici. Sachez être quelqu'un qui discipline, quelqu'un qui aime et quelqu'un qui donne l'exemple. Voilà, à partir de là, on a trois grands axes d'un bon père. Certainement aussi que la société française d'aujourd'hui manque de tels pères ou de gens qui jouent ce rôle de père. Ça peut être des professeurs, ça peut être des hommes politiques. Est-ce que ces gens-là, tous ceux qui ont une certaine position d'autorité, réunissent-ils ces trois caractères du père idéal qu'est notre Dieu? Et puis alors après, il y a les rapports fraternels entre les membres de cette famille. Et Paul nous invite à nous inspirer des liens familiaux dans la manière de nous comporter les uns envers les autres. Je veux lire ce premier verset de 1 Timothée 5, parce que c'est quand même pas toujours frère à frère. Il faut quand même le souligner. 1 Timothée 5:1. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Vous voyez, il y a des petites nuances. Dans un certain sens, on est tous frères. Sur le plan de la valeur devant Dieu, on est tous frères. Mais sur le plan, comment dire, de l'attitude à avoir les uns envers les autres, il y a des petites nuances. Quand même, un jeune ne peut pas agir avec la même liberté envers une personne plus âgée que dans l'autre sens. Quelquefois, il faut parler comme à un père. Alors, je crois que la jeune génération a aussi besoin d'entendre ça encore aujourd'hui. On doit marquer quand même une certaine nuance entre les jeunes et les âgés. On a aussi des pères spirituels auxquels on ne peut pas s'adresser avec la même liberté